Bienvenue dans Cast, une série de rencontres audio en toute intimité avec les personnalités qui font la mode d'aujourd'hui. Avec Nicolas, si on a décidé de lancer ce format, c'est pour vous dévoiler les dessous d'une industrie bien souvent idéalisée et vous entraîner avec nous dans les coulisses de la mode. Cast, c'est un peu comme une place en first row qu'on vous offre pour découvrir tous les visages et tendances de l'industrie. À travers le parcours de nos invités, des dirigeants, des mannequins, des designers et des talents en tout genre, nous aborderons sans tabou, et j'insiste bien sur le sans tabou, toutes les thématiques qui touchent l'univers de la mode.
I do not want to comment.
Je me suis donné toutes les réponses dont j'avais besoin.
Et la Fashion Week ?
Ils se mettent sur le trottoir, les fashion.
It's fashion art.
It is. Fashion is hard work, gritty, it's not glamorous.
Ok, you know now, les dés sont jetés. It means like, what can happen, you know ?
That's all.
On reçoit aujourd'hui Yann Turchi, un des hairstylistes les plus talentueux de sa génération. Passionné par le cheveu, il met son talent au service des plus beaux éditeurs mode du moment, mais collabore aussi avec de nombreux artistes et marques.
Bonjour Yann, merci d'être avec nous.
Bonjour Hello. Nico, merci de m'accueillir, c'est cool, ça me fait plaisir.
On est super content de t'avoir avec nous sur le podcast. Du coup, on aimerait bien que tu nous dises d'où tu viens, quel âge tu as, et que tu nous racontes un petit peu ton parcours depuis le début jusqu'à maintenant.
Ok, alors donc je vais me présenter correctement. Donc moi c'est Yann Turchi, je suis coiffeur dans l'industrie de la mode. J'ai 28 ans. Merci. Je viens de Thionville en Lorraine, une toute petite ville de.
Mais
à peu
non.
Près,
attends,
mais
ça veut dire qu'il y en a encore.
Des gens de cette région.
Il y en a encore un qui va dire oui.
Oh oui.
Oui. Ah non, mais c'est quoi cette mafia des huit?
Mais je suis choquée, tu sais que je savais pas.
C'est la mafia des huit. Ouais, on vient de la même région, enfin, on vient littéralement du même endroit avec Cécile que vous avez reçue il y a pas longtemps. Et oui, on dit les huit comme des huit. Et
c'est ouf.
Et ouais, on vient de Thionville. C'est assez marrant parce que c'est un petit peu, c'est une très petite ville, mais c'est un petit peu un petit vivier de talent. Je vais pas dire que toutes les gens connus et toutes les restas viennent de Thionville.
Franchement,
mais
tu peux.
Je pourrais presque. Mais on a quand même quelques gens, enfin que je connais de ma génération, tu vois, qui sont montés dans des grandes villes et qui ont réussi à faire des parcours, des petits parcours dans différentes industries ou dans différents milieux. Et je pense que ça vient aussi du fait que c'est une ville qui est vraiment dead. Donc du coup, on se fait tellement chier que t'as envie de partir et t'as envie de conquérir le monde, quoi.
Grave.
Dans peu importe ce que tu fais.
Bah t'es en route pour le conquérir, hein, déjà.
je sais pas, mais on va dire que ça démarre bien. Ça démarre bien.
Bon, c'est cool. Bon, raconte-nous un petit peu donc ton parcours scolaire, comment c'était tout ça et comment t'es arrivé à te dire ok, je vais devenir hairstylist.
Alors, ça a commencé de manière un petit peu. C'était un pur hasard. C'était un peu un hasard parce qu'en fait. Toute ma scolarité, j'ai un petit peu suivi. J'étais un peu l'élève qui avait des facilités, mais qui voulait pas non plus trop bosser dur, trop apprendre ses leçons. Et je me laisse un peu porter en fait par l'ambition de mes parents, qui voulaient que je fasse des études, ils voulaient que je devienne, que je travaille dans les chiffres ou dans le droit ou ce genre de choses là. Et donc collège, lycée, se passe plutôt bien. Première terminale. Je passe mon bac et puis en fait depuis que j'avais à peu près 15 ans, je coupais les cheveux à des potes pour me faire de l'oseille typiquement parce que je viens d'une famille un peu défavorisée et c'était un moyen pour moi de gagner de l'argent et puis de pouvoir sortir avec mes potes et puis d'avoir mes petites premières expériences de vie d'adulte quoi. Et puis quand
j'étais le coiffeur du quartier quoi.
J'étais un peu le coiffeur, ouais, j'étais un peu le coiffeur du quartier. Non mais en plus vraiment enfin je sais pas si tout le monde a cette référence ou a eu cette expérience-là dans sa vie, le coiffeur du quartier, mais à l'époque, je coupais littéralement les cheveux dans mon garage, tu vois.
Ouais, bah
donc,
bien
c'était,
sûr.
Bien sûr.
C'était vraiment... C'était une autre époque, on va dire. Mais c'était marrant, c'est ça aussi qui m'a donné la passion de ce métier-là et c'est ce qui m'a permis de m'épanouir et puis d'explorer quelque chose que j'avais vraiment envie, en fait. Parce que jusqu'à ce que je décide de devenir coiffeur, je suivais un petit peu... la vie de ma mère, de ma grand-mère qui était très présente et puis qui me disait toujours « Oui, on veut que tu fasses des études, on veut que tu deviennes un grand monsieur et que tu portes des costards-cravates tous les jours et que t'ailles... »
Oh putain, si elle voit le look maintenant.
Ah ouais, c'est... Non, c'est... Elles ont compris qu'il fallait... À un moment, en fait, elles ont compris qu'il fallait me laisser tranquille et puis qu'une fois que j'avais trouvé ma voie, c'était cool et puis j'allais m'éclater et puis faire ce que j'avais envie de faire, quoi.
Du coup, comment t'as décidé de t'orienter vers la coiffure? Comment ça a été accepté, perçu? J'imagine que c'est pas un truc qui se fait du jour au lendemain.
Ça a pris quelques temps, en fait, parce que entre le moment où je passe mon bac et donc je me libère un peu du poids familial, genre j'ai mon bac, c'est bon, maintenant je vais pouvoir faire un peu ce que je veux. Il se passe quand même un an parce que je coupais les cheveux de mes potes, mais je me posais encore des questions à 18 ans. Est-ce que c'est vraiment le métier que j'ai envie de faire de ma vie? Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire pour les 20, 30, 40 prochaines années, même si on peut se reconvertir? C'est quand même un choix, enfin à un moment c'est un choix de carrière, donc il faut aussi le prendre assez sérieusement. Et donc en fait je fais une année sabbatique pendant un an, j'arrête l'école et puis je réfléchis un peu à mon avenir, je continue de couper les cheveux parce que j'aime bien, ça me permet de gagner de l'argent. Et en fait je me rends compte que je me fais vraiment une clientèle, qu'il y a vraiment des gens qui viennent me voir souvent et puis ça me motive en fait. Et avant de commencer l'école, je fais un premier stage dans un salon de coiffure du coin près de chez moi. Et en fait, j'adore la relation avec les clients, avec mes collègues, apprendre aussi en fait beaucoup plus de choses, parce que jusqu'à ce que je me lance dans un salon, j'apprenais tout seul en fait. J'utilisais mon cerveau et puis je me disais, ok, si je veux faire ça, il faut que je commence comme ça ou comme ça. Mais j'avais jamais eu encore de formation technique, donc du coup, c'est hyper excitant en fait quand t'aimes quelque chose et puis. Que du jour au lendemain, on te fournit encore beaucoup plus d'informations et beaucoup plus de savoir et de techniques sur ce que t'aimes faire, ce que tu commences à aimer faire. C'est génial. Les deux premières années de ma carrière, pour moi, ça a été l'explosion de sensations, parce que je découvrais plein de nouvelles choses et puis j'arrivais à pouvoir laisser aller mon cerveau et ma créativité avec beaucoup plus de panels et d'expériences.
Mais quel type de clientèle t'avais là-bas, Jean?
Alors, c'était assez marrant parce qu'en fait, j'avais toujours les clients du quartier qui venaient se faire couper les cheveux. Et c'était au début, c'était un salon, c'était pas un salon de mamie, mais c'était un petit salon de d'une petite ville. Donc, c'est pas le truc genre hyper branché, mais c'est pas le salon de quartier totalement à l'arrache non plus, tu vois. C'était un peu le truc middle class. Il y a un peu des jeunes, il y a un peu des vieux. C'est un peu un mélange un peu hétéroclite de plein de choses, tu vois. Mais c'était marrant parce que j'avais quand même ma clientèle qui était vraiment pour le coup assez quartier, des gens très colorés avec des blacks et des arabes clairement, hein. Mais et puis mélanger tout ça avec les petits gens du centre-ville, tu vois. Donc une clientèle assez mélangée, ouais.
Donc là, dans ce salon-là, en fait, tu te formes sur le terrain, mais sans avoir forcément être passé par la case école?
Pas encore, ouais. Là, j'étais dans un stage qui a duré 2 mois. Et après ça, en fait, c'est le moment de m'inscrire à l'école. Donc, je peux continuer mon stage, m'inscrire à l'école et reprendre la rentrée avec les cours le septembre d'après. Parce que là, quand je dis ça, je pense qu'on devait être milieu d'année... En 2000 quelque chose, je sais même plus l'année, mais okay. Mais ouais.
Là, du coup, on est à Thionville. Ensuite,
là, on est à Thionville.
Tu décides de te former. C'est quoi le process? Comment
donc,
tu choisis l'école?
Ouais, parce que pardon, je suis un peu.
Non, t'inquiète.
Je perds un peu mon fil. Je parle beaucoup. Je fais mon stage, je fais mon CAP. J'enchaîne avec le BP coiffure. Donc là, on est toujours à Thionville. Je travaille en salon en alternance à côté. Donc, je fais 2 jours d'école, 3 jours de salon pendant 2 ans. Un an de CAP, pendant 3 ans, 1 an de CAP, 2 ans de BP. Et puis, quand j'obtiens mon BP, là, je décide de partir à Londres. En fait, parce que j'étais à Thionville, je m'étais formé, j'avais passé mes diplômes, et donc là je pouvais être officiellement coiffeur dans n'importe quel pays du monde. Et puis je me suis dit, en fait, Thionville, ça suffit, et je prends un
billet. Pourquoi Londres, du coup?
Parce que c'était une culture qui m'attirait beaucoup. Ma mère a vécu 2 ans à New York quand elle était plus jeune, et puis elle me parlait toujours de ses expériences, et ça m'a motivé, en fait. J'avais juste envie de, au début j'avais vraiment envie de sortir de partir de Thionville, et puis d'avoir une expérience dans un pays étranger, de me mettre vraiment aussi sûrement, je l'ai réalisé peut-être un peu plus tard, mais aussi de me mettre un peu en danger, de sortir d'une zone de confort, d'un endroit où je connais tout le monde et où je parle la langue et où c'est hyper facile. J'avais envie aussi de vraiment me bousculer et puis de vraiment aller découvrir une culture différente. Parce que si à Londres, c'est des salons de coiffure totalement différents de la France, c'est beaucoup plus technique, les coupes sont beaucoup plus précises, il y a un style qui est beaucoup plus affirmé, et j'avais envie d'aller découvrir cette culture-là et ce côté-là de la coiffure pour enrichir encore mon skill set et mes compétences.
Ok, donc ça, c'est un vrai step-up, parce que passer C'est une vraie, vraie étape personnelle et professionnelle.
Ouais.
Là, tu changes complètement de, milieu.
Je change complètement de milieu. J'avais vraiment... En fait, depuis que j'ai commencé, depuis que je commence la coiffure, j'ai toujours eu cette idée dans la tête de je veux être mon propre patron le plus vite possible. Donc, j'avais vraiment envie de très vite acquérir de l'expérience, me mettre dans des, dans des conditions un petit peu, entre guillemets, enfin sortir de mon confort. Et pour très vite acquérir de l'expérience, devenir autonome et puis me lancer le plus vite possible en fait. Ça c'est un truc qui a toujours été clair.
Mais ça se passe comment Londres ?
Londres ça se passe plutôt bien, écoute je reste un an, ça se passe assez bien, je travaille dans un salon de Soho, un salon un peu branché. J'apprends beaucoup, j'ai une très bonne relation avec mon patron. Je me fais beaucoup d'amis, c'est hyper cool, tu vois. Je rencontre aussi beaucoup de gens que je vais garder comme amis un petit peu plus tard, des artistes, des gens qui font des choses un petit peu barrées. Et puis, à l'époque, je suis très jeune, là, j'ai 21 ans. C'est un monde que je connaissais pas du tout. Je sors de Thionville où il se passe rien, j'arrive à Londres où c'est une explosion de plein de choses, tu vois, de tous les looks, de toutes les esthétiques. De toutes les musiques, de toutes les couleurs, et ça c'est aussi ma première expérience vraiment aussi en dehors de la France et en dehors de Thionville, parce que j'ai voyagé quand j'étais jeune, mais j'ai pas non plus fait le tour du monde. Et en tant que
même c'est un truc d'adulte quoi.
Ouais, c'est ça, tu vois, je me suis vraiment lancé comme ça sans vraiment savoir où j'allais. Et puis je me retrouve propulsé là-dedans, et j'adore parce que je découvre vraiment des choses que j'ai jamais vues en fait encore. Des cultures, des sous-cultures, des endroits, des soirées, des musées, plein de choses que j'ai pas eu l'occasion d'expérimenter à Thionville, parce que au niveau culturel et puis même au niveau, enfin la vie, la jeunesse en fait est pas très très active en Lorraine.
Tu restes combien de temps à Londres ?
Je reste un an, et puis j'ai une petite galère familiale qui me fait rentrer en Lorraine parce que ma grand-mère tombe malade. Et je rentre la voir parce que je suis très proche de ma grand-mère en fait. Et je m'étais dit, bon, bah, ça te dit un an, c'est pas mal dans ton parcours, rentre en Lorraine et puis après tu verras bien ce qui se passe. Et donc là, je rentre en Lorraine, retour à la case départ, retour, retour à là où j'ai grandi. Je vois ma grand-mère, ça lui fait plaisir, je me dis que je reste un peu, donc je retrouve un job dans un salon du coin qui dure. Que je reste quoi un an, et puis de là je reviens à Paris en fait, et ça on est en 2017, quelque chose comme ça je crois.
Qu'est-ce qui te fait venir à Paris du coup?
Qu'est-ce qui me fait, en fait je skip un peu des étapes en vrai, parce que quand je travaille dans le salon au Luxembourg, même si, enfin en fait voilà, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que la Lorraine est frontalière au Luxembourg. Et que pour beaucoup de gens qui vivent à Thionville, aller travailler au Luxembourg, c'est un petit peu l'Eldorado, parce que le SMIC est plus haut en fait. Et donc pour tous les métiers,
tout est plus haut.
comme les métiers pour la coiffure où on est payé au SMIC, être payé au SMIC luxembourgeois c'est quand même un gros avantage. Donc j'allais travailler au Luxembourg. Et en fait dans ce salon où je travaille, c'est un salon assez branché luxembourgeois si je peux me permettre, même si branché luxembourgeois ça sonne pas forcément hyper bien ensemble. Donc là, je travaille 2 ans dans ce salon, et en fait, mon boss de l'époque fait beaucoup de concours, beaucoup de shooting photos, de choses comme ça. Et en fait, ça me motive à me lancer, en fait, à essayer de photographier mes créations capillaires de l'époque, parce que ça a bien changé maintenant.
On va voir.
Si tu fouilles un petit peu sur Google, tu peux trouver des choses, les choses que j'ai pas encore réussi à enlever.
On va envoyer quelques espions.
Mais va pas trop profond, s'il te plaît. Va pas trop profond, ça va faire mal. Non, c'était vraiment une époque différente. Et puis à l'époque, j'ai un intérêt pour la mode, mais j'ai pas encore vraiment développé mon œil là-dessus, tu vois. Donc c'est les tout débuts, et c'est pas les trucs les plus géniaux qu'il fait, même s'il y a des trucs dont je suis encore assez fier en vrai.
Tu viens vraiment du cheveu, pas vraiment de la mode quoi. Aujourd'hui tu fais de la mode, mais t'es pas un passionné de mode avant d'être un passionné
ouais,
de
je,
cheveux.
Je suis pas, moi faire, je suis quoi. Plutôt un passionné, enfin je suis vraiment un passionné du cheveu en fait. C'est moi à la base de la base, okay. Quand j'ai commencé, je savais que je voulais me mettre à mon compte le plus tôt possible et puis bosser pour moi et faire des choses, mais je m'étais pas dit c'est la mode et c'est les shoots et ça va être ça m'a débouché. Je m'étais dit on verra un petit peu, et puis je vais voir en fonction de comment j'évolue, et puis on verra où ça me mène. Et donc, je commence à faire ces shoots, à faire ces concours. Ça se passe plutôt bien. J'en gagne deux. Je peux, genre le Biblon et puis les... comment ça s'appelait encore les Jeunes Espoirs, les Hairdressing Awards, les Jeunes Espoirs.
Okay.
Ça se passe bien, ça me motive. Je commence un peu à rencontrer des photographes luxembourgeois. On fait des petits test shoots, ça se passe plutôt bien. Et puis en fait, il y a un petit événement qui se passe qui me fait me comprendre en fait que en fait c'est ça peut être ça la débouchée, c'est que à l'époque je chope mon premier job commercial au Luxembourg avec un photographe avec lequel j'avais bossé sur un des shoots, un des concours que j'avais fait. Et je tairai le client
pour pas qu'on retrouve les cadavres.
Ouais, par respect pour moi-même, je vais taire le nom du client parce que c'était vraiment chum. Mais en fait, ça me fait réaliser qu'en fait, il y a peut-être une débouchée parce que en fait, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'en Lorraine, on n'a aucune idée de ce qui se passe à Paris dans le monde de la mode. Pour nous, c'est très loin. Enfin, quand j'étais coiffeur à l'école ou quoi, on m'a jamais dit. Il y a des coiffeurs qui travaillent sur des shoots en fait et qui font ça tout le temps et puis qui en vivent en fait tout simplement. Pour moi
c'était super important.
En fait on te l'apprend pas, on te le dit pas, on t'ouvre même pas toutes les portes de ton propre milieu en fait, et donc c'est vraiment quand j'ai ce job que je me rends compte en fait, et je me dis c'est ma clé, ma grand-mère va mieux, bye le Luxembourg, bye Thionville, et puis je bouge à Paris, donc là on est fin 2017, septembre je crois, quelque chose comme ça, et j'arrive à Paris, je veux me lancer mais je connais personne, et parce que je suis pas du tout du milieu de la mode, j'ai pas fait d'école de mode, j'ai pas d'amis designers ou photographes, je connais pas grand monde, j'arrive un peu ici, et puis en fait j'ai une chance à l'époque, c'était que c'était déjà le boom d'Instagram, et que ça devenait un petit peu... on pouvait plus facilement aborder les gens et puis à l'époque trouver des collabs et faire des test shoots et puis commencer un peu à rencontrer des gens. Donc au début je me lance vraiment un peu à l'aveugle, j'ai pas trop l'idée de comment je dois procéder, de ce que je dois faire. Je contacte un peu des photographes sur Instagram, j'essaie un peu de voir ce qui marche, il y a des gens qui me répondent, des gens qui me répondent pas, et en fait je rencontre à Paris par pur hasard chez Delorme en fait le quartier général de tous les coiffeurs à Paris. Dans le 10e, je rencontre chez Delorme un très bon ami à moi, enfin qui devient un très bon ami à moi, Pal, un coiffeur anglais en fait, qui m'apprend que en fait il y a des agences de coiffeurs, maquilleurs, il y a les shows, qui m'ouvrent un peu les portes en fait. Il me donne les contacts des agents que je peux contacter pour essayer d'assister un petit peu.
Tu découvres encore un nouveau pan.
Exactement, je découvre encore un nouveau pan. Et donc il me donne les contacts et il me dit du coup tu peux écrire à un tel pour assister à un tel et puis tu verras bien ce qui se passe. Mais il me donne pas, enfin il me dit pas non plus les codes et les règles. Donc au début
il entrouvre la porte. Quoi.
Voilà, mais... il entrouvre la porte et puis moi je me dis ok trop cool. Et puis au début un petit peu de manière un petit peu naïve, je commence à envoyer des mails et puis à contacter des agents, mais pas forcément de la bonne manière, de manière un petit peu, enfin. J'envoie vraiment des mails au tout début, j'envoie vraiment des mails de débiles, genre à des agents, genre ouais, je suis un jeune coiffeur, est-ce que vous voulez me représenter et tout, enfin vraiment le truc inverse total de ce qu'il faut faire. Mais il y a quand même un ou deux agents qui me répondent et puis qui me disent écoute, voilà, on a tel ou tel coiffeur qui est là à Paris pendant la Fashion Week, si t'es dispo tu peux les assister. Et puis donc je dis ok, et puis c'est là aussi que je commence un peu à assister sur les shows, et je fais une première saison avec je sais même plus qui c'était ce, à l'époque le premier je crois que c'était Tina Houghton, la première avec qui j'ai commencé à bosser.
Okay. Tu te souviens du show?
Je crois que ça devait être Amiri, si je dis pas de bêtises. Marc Amiri ou quelque chose comme ça, je crois que c'était ça.
Stress ou pas stress?
Gros stress, ouais, gros stress, parce que j'arrive dans une team de 10-12 où j'ai pas du tout l'habitude, je connais pas les codes, je vois que tout le monde m'observe de manière un petit peu étrange parce que t'es le nouveau et que t'as vraiment l'air du nouveau parce que t'as à peine ton kit. tu sais pas trop où t'installer, tu connais pas la dynamique de travail avec la prod, les clients, la styliste, tout ça, donc t'es un peu dans ton coin, t'essaies un peu de découvrir. Et puis, pour être honnête, les gens t'aident pas beaucoup non plus, tu vois. On te regarde un peu comme le nouveau, et puis c'est un peu, ben vas-y, débrouille-toi, fais-toi ta place, et puis on verra combien de temps tu vas rester, tu vois. Et en fait, pour être honnête, donc je fais. Donc avec Tina, ça se passait relativement bien. C'était assez cool. Et puis en fait, j'ai un peu envie de découvrir aussi d'autres coiffeurs, des idoles, en fait, certaines idoles que je connaissais un petit peu depuis longtemps. Du genre Eugene Suleiman, Duffy, mais que j'avais à l'époque, j'avais aucune idée qu'il y avait moyen de travailler avec eux. Et donc là, j'ai réussi à rentrer en contact avec Streeters, à avoir une place dans les teams. Et puis en fait, il y a un petit truc qui me dérange un peu, c'est qu'il y a un esprit de compétition un petit peu trop fort, tu vois, où je me sens pas forcément bien accueilli ou le bienvenu dans les teams que j'intègre après.
Entre les assistants ou avec le coiffeur général?
Entre les assistants. Il y a une espèce de petite pression, de petite compétition où il faut un peu jouer des coups, démontrer que t'es le meilleur et que t'as la plus grande gueule pour te faire ta place, pour réussir à coiffer une fille, pour réussir à bosser et à apprendre, en fait, tout simplement, parce qu'en fait t'es là pour ça, tu vois. Quand t'es assistante, t'es là pour filer un coup de main, pour être dispo, mais t'es aussi là pour apprendre, tu vois. Donc tu vois que en fait il y a vraiment il y a aussi une espèce de hiérarchie même entre les assistants, tu vois, ce qui est un peu normal quand t'es le premier ou le deuxième assistant, parce que t'es le plus proche du coiffeur, mais dans le reste de la team, normalement tout le monde doit être égal et puis tout le monde doit être welcome. Et enfin, moi, c'est comme ça que je le voyais de manière très naïve, en fait, en arrivant. Je pensais que ça allait vraiment être cool, un peu no stress, voilà, une grande famille de coiffeurs, c'est trop bien, on est tous ensemble, on s'aime trop. Et en fait, je me rends compte que pas du tout.
Donc, tu retrouves pas, en fait, l'esprit salon de coiffure
je
qui t'avait fait kiffer au départ, quoi.
Je retrouve pas l'esprit salon de coiffure, mais en fait, je suis tellement en osmose avec moi-même et en kiff avec ce job-là, en fait, de pouvoir créer des choses en live, de pouvoir faire des shoots, de bosser avec des stylistes, avec des créatifs, en fait, avec des gens qui me ressemblent. Et c'est aussi la première fois que, quand je fais des shoots, que j'ai vraiment l'impression de travailler avec des gens qui me ressemblent à 100%. Parce qu'en salon, j'aimais bien l'atmosphère, mais il y a un moment où tu sens que ça bloque aussi un petit peu. Tu vois, après quelques années, quand ça fait déjà 3-4 ans de salon, y a un petit blocage. Tu as envie d'aller un peu plus loin, puis que ce soit avec les clients, avec tes collègues. Il y a des choses que toi tu vois plus loin et qu'ils voient pas, ou des choses comme ça, tu vois, parce que c'est pas, il y a pas la même, je vais pas dire qu'il y a pas la même envie du taille, parce que j'ai pas envie de dénigrer les coiffeurs salons, mais il y a pas cette, il y a moins la recherche de la perfection. T'es sur une relation client, il faut aller vite, il y a beaucoup plus de travail, enfin il y a beaucoup de clients dans certains salons, il y a énormément de clients dans la journée, donc t'as pas forcément toujours le temps d'aller jusque dans les moindres détails. Que ben là sur les shoots tu peux vraiment t'exprimer à 200%, et puis en fait c'est toi, parce que
c'est une page blanche, c'est pas la dame
blanche
qui te demande un balayage parce qu'elle a un mariage.
Exactement,
demain,
et qui va être hyper piquée sur la manière dont tu le fais, parce qu'elle a l'habitude d'avoir sa coiffeuse depuis 10 ans, et puis là elle est pas dispo, et du coup il faut changer, tu vois. Mais ouais, donc du coup je suis totalement in love avec le job. Et en fait, je me dis juste que ben je vais arrêter d'assister et que je vais me lancer solo.
Wow.
Et en même temps, tu fais du shoot un petit peu, ou
pendant que j'assistais, je faisais un petit peu mes jobs à moi, mais c'est encore très fébrile à l'époque, tu vois. Je gagnais pas d'argent, je dépensais tout ce que je gagnais, parce que ben quand tu fais tes shoots et que tu veux monter ton portfolio, il faut dépenser énormément d'argent pour réussir à faire les choses que t'as dans la tête, tu vois, les extensions, les perruques, toutes ces choses-là, ça coûte de l'argent. Donc t'as investi beaucoup au début, et puis t'es à Paris, la vie coûte très cher, donc c'est pas une situation évidente. Mais à l'époque, donc après, donc là, quand tu parles de ça, je suis à plus un an à Paris, donc ça fait déjà un an que je suis là. J'ai rencontré un peu plus de monde, je suis quand même un peu plus en confiance aussi avec moi, et puis avec ce que je fais. Et puis ça devient un peu plus facile de booker des jobs. Et à l'époque, donc je travaille un peu, et en fait j'ai une chance, c'est que une styliste avec laquelle je bossais pas mal à l'époque était l'ancienne assistante de Sabrina Schrader, qui fait les stylings sur les shoots Vivienne Westwood. Et en fait, elle me request pour un job, pour une campagne Vivienne Westwood avec Jürgen Teller. Et ça fait un an que je suis là, et moi j'y crois pas trop, je suis un peu en mode genre mais pourquoi moi, et qu'est-ce qui se passe. J'ai vite compris pourquoi moi, Mais c'est une, en fait c'est une opportunité en or, en or. Donc du coup super excité, c'est trop bien.
Attends, mais pourquoi tu dis j'ai vite compris pourquoi moi, mais pourquoi toi justement?
Ah bah le tarif. Parce qu'à l'époque ils avaient, Vienne Westwood était pas à cette époque, enfin je sais pas trop comment ils s'en sortent en ce moment, mais ils avaient pas énormément de budget pour leur shoot, donc du coup il fallait trouver quelqu'un de pas cher, quelqu'un de disponible très vite, et puis quelqu'un qui fasse des trucs un petit peu un peu créatifs, tu vois. Et à l'époque je commençais déjà un peu à avoir un portfolio un petit peu cool, entre guillemets, un petit peu cool. J'avais déjà des images qui représentaient un peu mon travail, en fait, qui représentaient un peu mon univers, mon travail. Et donc elle lui montre mon portfolio, enfin mon Instagram, en fait. Elle monte mon Instagram, elle dit ok, on y va, elle me book, je fais ce job avec Jürgen Teller, avec une amie que j'apprécie beaucoup et avec qui c'est cool parce qu'on a un peu évolué ensemble, Vanessa Bellini. Donc on se retrouve, parce que je crois que tu la connais aussi, Nico, Vanessa, non?
Ouais, je la connais super bien.
Et donc on se retrouve sur ce job ensemble, ça fait tous les deux quelques mois qu'on s'est lancé. Et on se retrouve ensemble, donc c'est trop bien, le shoot se passe trop bien. Et en fait, quelques mois après, le shoot sort, et puis là, ça met un petit impact, ça commence à avancer un peu plus vite. Je continue de faire mes jobs.
T'as toujours pas d'agent là?
J'ai toujours pas d'agent. Je continue de faire mes jobs, et je sais plus exactement à quelle période. On est quoi, 2021, ça fait deux ans,
2019, je pense, ouais.
Fin ou début 2019, je sais plus, début 2019, pardon, début 2019, je rencontre donc mon agent actuel, et puis on a un hyper bon feeling. Et puis on décide de se lancer. Donc au début, je suis un peu off-board, on travaille ensemble, on essaie un peu d'améliorer le portfolio, de voir comment on arrive à travailler ensemble. Et puis un an après, on signe officiellement, et puis here I am.
Oh cool. T'as senti un switch dans ta carrière en étant représenté?
Ouais. J'ai senti un switch, en fait, parce que ça t'enlève quand même, je trouve, une petite pression mentale. Je dois tout faire moi-même.
Ouais.
Je dois tout faire moi-même et je dois négocier et je dois relancer. Et en fait, tu peux pas vraiment. T'as moins d'espace pour te concentrer sur ton job de créatif, en fait. Et d'être totalement libre de toute pression. Et c'est important, en fait, c'est vraiment important d'enlever cette pression-là parce que ça te permet aussi de t'exprimer plus facilement et d'être beaucoup plus en confiance, tu vois. Ça, c'est quand même... C'est un petit step qui amène du confort et puis qui permet vraiment de dédoubler ton potentiel parce que t'as beaucoup plus de temps et d'énergie pour t'occuper de ce que tu vas faire sur les shoots, en fait.
Te concentrer sur ta créativité.
Moi, je dis même, ça préserve la relation que t'as avec le client.
Et ouais, carrément.
Quand t'arrives, t'es vraiment que sur le créatif, quoi.
Ça, carrément, parce que c'est vrai que ça m'est arrivé une ou deux fois où quand j'avais pas encore d'agent et que tu négocies les tarifs avec les clients et que tu sens que la négociation est un petit peu tendue, quand t'arrives sur le shoot, dans la meilleure vibe, en fait. Tu sens déjà... En fait, avant même de commencer à la discussion de ce qui va se passer, t'as déjà un petit peu ce petit quick qui s'est passé en prep sur la négociation, que ce soit du fee ou d'autres choses, et tu t'es pas tout de suite hyper à l'aise. Que quand tu t'enlèves cette pression-là et que c'est quelqu'un d'autre qui le fait pour toi, toi t'es là pour parler de ce qui va se passer dans la journée, de ce qu'on va faire, du brief et puis de la direction créative. Et donc du coup...
Ouais, c'est le côté good cop, bad cop, moi je dis toujours.
Exactement.
Ouais, si en plus c'est toi qui dois aller en plus courir après l'argent, c'est sûr que le client ne te rebook plus jamais.
Ouais, c'est clair. Non, c'est quand même un gros step. Et puis pour moi, en fait, à l'époque, tu vois, c'était un peu genre la consécration parce que j'arrive de Lorraine à Paris... je connais pas grand monde, je me lance un peu tout seul, je vais sur les shows, ça se passe pas forcément hyper bien. Il y a aussi, entre guillemets, même pas entre guillemets, mais il y a quand même pas mal de gens qui essayent un peu de te décourager, tu vois. T'es pas forcément. À l'époque, j'avais 25 ans, tu vois.
Ouais, t'es jeune. Hein.
Donc, je suis quand même relativement jeune, t'es pas encore hyper. À l'aise dans tes bottes, tu vois, t'es encore un peu, t'es un adulte, mais t'as encore un peu de chemin à faire mentalement et puis personnellement avant de vraiment être de t'assumer à 200%, je dirais. Et donc, quand tout ça se passe, quand ça se débloque, quand j'arrive à avoir mon agent, que je suis un peu plus libre, en fait, pour moi, c'est vraiment l'éclosion de ma personnalité. Et puis, même si ça sonne un petit... Enfin, on va pas dire que c'est grâce à mon agent que je me suis éclos comme ça, mais ça m'a permis d'aller beaucoup plus vite, en fait. Et donc là, je me sens totalement libre. Et puis, ça me permet de bosser beaucoup mieux, en fait, tout simplement. Et je le sens tout de suite dans mon travail. Je sens tout de suite dans ma relation avec les teams, avec les clients, avec tout le monde en fait. Et ça fait du bien.
Trop cool. J'en profite tant qu'on est sur le côté parcours et comment t'en es arrivé là où tu es aujourd'hui. Comme tu l'as dit, c'est un univers qui n'est pas forcément hyper bienveillant.
Pas toujours.
En tout cas, c'est très concurrentiel, ça c'est une évidence. Quels sont, avec les reculs, là, les conseils que tu pourrais donner justement à quelqu'un qui vivrait ce que tu as vécu il y a 5-10 ans?
Un conseil que je leur donnerais, ne laissez personne douter de vous-même en fait, parce que il y a toujours des gens qui vont essayer. Je pense qu'en vrai c'est dans la nature humaine et ça fait partie des relations sociales, parce qu'on lutte tous contre des insécurités et contre des problèmes personnels, et des fois c'est même pas forcément que les gens sont volontairement mal intentionné, c'est juste qu'ils dealent avec tellement d'insécurité et qu'il y a aussi quand même une petite pression sur certains jobs, et que t'as toujours la pression, en fait t'as toujours une espèce de corde autour du cou où si t'es pas assez bon ou t'es pas le meilleur le jour J, tu risques de, quand t'es sur les shows, de dire t'es de la team, ou sur les jobs de perdre le client ou de quoi que ce soit, tu vois. Donc ne laissez personne douter de vous-même et toujours croire en soi, en fait, tout simplement, tu vois. C'est difficile à atteindre ce stade-là, mais une fois que tu l'as atteint, personne peut te faire changer de route, en fait, tout simplement.
Grave.
Et c'est hyper important, tu vois, c'est hyper dur quand t'es jeune, mais il faut vraiment essayer de se construire un mental d'acier, en fait, parce que personne n'est là pour te faire des câlins, en fait.
Non, c'est clair.
Tout simplement.
Ouais, c'est un travail de tous les jours, ça, pour tout le monde, je pense.
C'est clair. Justement, maintenant que t'es un peu plus assis, disons, dans le game, tout ça, est-ce que tu pourrais un peu nous parler de ton univers, tes inspirations, tes codes? Qu'est-ce qui font que toi, Yann, t'es différent d'un autre coiffeur, au-delà de ton parcours, je veux dire?
Je pense que c'est en fait tout simplement mon parcours qui me rend un petit peu différent, parce que je viens d'une famille assez défavorisée. Je suis passé par des steps un petit peu compliqués dans ma vie, tu vois, parce que quand je vous ai raconté mon parcours, je saute quand même pas mal d'étapes et je vous dis pas tous les détails, mais je suis passé par des périodes un petit peu compliquées, tu vois. Donc ça, c'est des choses qui m'ont fait grandir et qui m'ont rendu un peu plus fort, on va dire. Et puis mes influences culturelles, tu vois, le fait que ma mère, très jeune, m'introduise à la musique, à la culture, parce qu'elle était, elle a passé 2 ans à New York et elle était au contact d'une culture totalement différente, et elle avait aussi cette envie de nous communiquer tout ça. Donc ça m'a très vite fait avoir une vision un petit peu différente sur les choses. Et puis après, en grandissant, j'ai pas mal essayer de développer mes goûts, et puis ça a été influencé en fait beaucoup par la musique, tout simplement. Et
Donc grosse influence de la musique dans
grosse influence dans musicale dans mon univers. Je suis quelqu'un qui a, enfin, j'ai l'oreille très ouverte, et en fait
c'est vrai que quand je passe à côté de ton bureau, parce qu'il faut dire on a nos bureaux qui sont
à côté,
à côté,
ouais,
des autres,
ouais,
j'entends toujours une super playlist,
il y a toujours un fond de musique. Et en fait mes premières références et ce qui m'a beaucoup influencé après, je pense, dans mon travail plus tard, ça a été la musique hip-hop. Et puis ça, c'est vraiment les premières références, la musique hip-hop des années 90, les Lil Kim, Beyoncé, tout ça. Et ça m'a influencé vers une certaine esthétique. Et puis après, en grandissant plus tard, je me suis ouvert vers la musique électronique, vers le rock. Et ça a un peu construit mon univers visuel, parce que je regardais beaucoup à l'époque comment ils s'habillaient. Enfin, c'était un peu mes références aussi à moi, tu vois, de mon propre style. Comment ils s'habillaient, comment ils se coiffaient. Parce que j'ai beaucoup, en fait, aussi changé de style en grandissant. Je suis passé un peu par toutes les périodes. J'ai été le petit rappeur, j'ai été le rocker, presque le punk un peu, le petit mec en costard, j'ai un peu tout fait, tu vois, donc ça m'a aussi, en fait, ça m'a permis de...
Il y en a
une qui est assez marrante, si tu cherches bien sur Google, tu pourras la trouver, mais je vais pas t'en dire plus. Mais en fait, ça m'a permis aussi de... C'est ce qui m'a permis aussi d'associer des looks avec des looks vestimentaires avec des looks capillaires un petit peu, tu vois, et ça m'a orienté un peu plus tard vers sur mes références et sur mes recherches, et puis essayer un peu après de pousser un petit peu plus loin, tu vois. Mais c'est comme ça que j'ai commencé, et j'ai perdu totalement le fil de ce que tu me disais, parce que tu me disais qu'est-ce qui fait de toi un coiffeur différent. Mais en fait, je pense simplement c'est un peu tout ça, tu vois, c'est juste mon background et mon background, et puis les expériences par lesquelles je suis passé, tu vois, ça m'a... Je pense que c'est comme ça que je résume la chose.
De manière très pratique, si on en vient maintenant à un peu ton day-to-day, ce que tu fais aujourd'hui, maintenant que t'es représenté, que t'as des jobs qui arrivent de manière assez fluide, from left and right, c'est quoi ton quotidien ?
Alors, mon quotidien, mon quotidien, c'est beaucoup de shoot, parce que je travaille quand même beaucoup, mais en général, mon quotidien, quand je travaille pas, petite routine sportive le matin, je me lève, je fais un peu mes exercices, je viens au bureau, et puis en fait, souvent j'organise un peu mon kit, je regarde un petit peu ce que j'ai à faire dans la semaine, je fais pas mal de recherches, je suis beaucoup axé sur le travail, donc ça se passe souvent au bureau, c'est un petit peu mon... aussi l'endroit où je me sens à l'aise de venir passer du temps et de venir un petit peu laisser mon cerveau divaguer à gauche à droite. Et puis je passe beaucoup de temps à chercher des références visuelles sur les choses qui m'intéressent actuellement ou les nouvelles idées que j'ai envie de développer, ce genre de choses là quoi.
Ok, tu parlais de ta relation client tout à l'heure, c'est quoi ton implication dans le développement créatif d'une campagne, d'un shoot, d'un édito, ou peu importe sur quoi tu travailles?
Mon implication sur le shoot, en fait, souvent, donc ça démarre quelques jours en amont, quand on a le temps et quand le shoot est bien produit, si je peux dire. Sinon, souvent, c'est le matin avec la team, on discute un petit peu des références et puis de ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie d'exprimer comme idée. Et puis, moi, souvent, je propose des idées en fonction des looks, en fonction de ce qu'on a besoin de faire, en fonction des filles, de ce qui m'inspire, de comment j'imagine aussi le look dans sa totalité, parce que j'essaye toujours, en fait, que mon travail soit un complément et une pièce en plus sur un look, tu vois. J'essaye vraiment de faire en sorte que ce soit hyper complémentaire avec le travail de tout le monde. Donc,
Fois où tu prends le lead aussi ?
Il y a des fois où je prends le lead. Je t'avoue que je prends le lead quand je suis vraiment, vraiment, vraiment à l'aise avec les gens et quand je sais que ce que je vais dire va être bien compris et bien interprété. Parce que ça, pour moi, en fait, je suis quelqu'un quand même d'une nature assez timide, pour être honnête. Et
parce que sur les sets, il y a souvent des gros échos.
Il y a toujours des gros échos.
Il y a beaucoup une espèce de tectonique des plaques entre photographe, styliste,
exactement.
DA. C'est un peu à qui va réussir à
imposer
tirer
son idée
vers son côté.
Ouais, exactement. Mais moi, je t'avoue que je suis pas. En fait, quand j'ai commencé, j'avais tendance à le prendre un peu trop personnellement et à me vexer un petit peu. Mais avec le temps, en fait, j'ai appris à dealer avec ça et je suis pas trop du genre à vouloir tirer la blanquette de mon côté. J'essaie plutôt de faire en sorte à ce que le travail de tout le monde soit harmonieux et que ce qu'on essaye de créer, en fait, soit beau visuellement. Après,
tu te mets au service de la team, quoi.
Ouais, je me mets au service de la team, tu vois. J'ai, à moins que ce soit une hair story où là, c'est vraiment... parce que j'ai fait un projet comme ça il y a pas longtemps et là c'était vraiment moi qui donnais l'impulsion, c'est moi qui proposais les idées, qui dirigeais un petit peu toute la team. Mais en général, je suis plutôt du genre à essayer d'apporter quelque chose à l'édifice sans forcément vouloir que ce soit mon travail qui shine le plus, tu vois. Je suis plutôt quelqu'un de complémentaire et les égos. Je t'avoue que franchement, je suis arrivé à un point mentalement où en fait je m'en tape littéralement. si les gens veulent.
C'est le meilleur point, ça. Je te le dis, quand tu l'atteins, celui-là, ouais, tu te libères de beaucoup de choses.
En fait, tu te libères d'énormément de choses. Tu te libères d'un poids aussi et d'une pression, tu vois, d'une petite pression. Parce que quand tu dois tout le temps lutter contre. Ou quand tu te sens un peu, en fait, obligé de lutter contre l'ego de quelqu'un, c'est hyper. Moi, je trouve ça hyper.
C'est énergivore.
C'est épuisant, franchement.
C'est épuisant, tu vois. Donc, en fait, souvent, aussi, ce que j'ai réussi à comprendre. C'est que quand les gens veulent vraiment avoir un input de ton côté et quand ils veulent vraiment avoir du cheveu, ils vont te le dire.
Ils te laissent la place.
Ils vont te le dire, ils vont te laisser la place, tu vois. Et puis souvent, en ce moment, on est quand même dans une esthétique où on est pas sur du rien, mais on est sur des choses quand même beaucoup plus easy, tu vois, genre en cheveux. C'est un peu plus rare de faire vraiment, de passer des 2 heures à préparer... un montage ou à partir dans des grosses coiffures parce qu'on est quand même assez relativement easy, tu vois. Donc en général, je suis plutôt du genre à voir un peu avec la team, discuter, parler de mes idées, mais après je force pas, je suis pas le pusher qui va essayer de faire passer mon idée parce que j'ai envie de le faire, tu vois. Je suis vraiment là pour aider, pour complémenter, et puis si ça passe, ça passe, si ça casse, ça casse, tu vois. Mais des égos, honnêtement, j'ai vraiment réussi à me libérer de ce poids et ça fait bien. Parce que t'as plus obligé de. En fait, tu te sens plus obligé de prouver tout le temps, constamment, que t'es le meilleur ou le plus fort, tu vois. T'es juste en mode, ben en fait, je suis là. Ouais. Et si vous avez besoin de moi, ben je suis là. Et puis sinon, ben.
Je suis là, je suis efficace.
Je suis là aussi, tu vois. Je fais. Pas je fais ce qu'on me demande, mais. Enfin, si, je fais ce qu'on me demande, tu vois. Mais je fais pas lutter pour imposer mes idées, tu vois. À la fin de la journée, en fait, c'est pas non plus... c'est pas ma campagne, en fait.
Ouais, mais c'est donc, le meilleur mood, ça.
Non, bien sûr.
Ouais, ouais, et en fait, c'est le mood qui marche le mieux pour moi, en fait, tout simplement, tu vois. J'ai pas du tout envie de... C'est pas dans ma nature de vouloir être le mâle alpha, accompli, le centre de l'attention, le mec le plus fort, le meilleur coiffeur de la Terre, tu vois. J'ai pas besoin de ça, en fait. Je suis très content avec ce que je fais. Je suis très content des étapes que j'ai réussi à atteindre, tu vois. J'ai encore tout le temps de me développer et j'ai pas envie de me frustrer trop vite, tu vois, parce que aussi quand tu fais trop la lutte des égos et que souvent ça passe pas parce que quand t'es coiffeur, tu luttes contre des DA et contre des photographes et contre des clients qui n'ont pas forcément envie de t'écouter. Donc, tu vas juste, en fait, continuer d'évoluer avec des frustrations si tu le fais tous les jours. Et j'ai pas envie d'évoluer avec des frustrations, en fait. J'ai envie d'avoir un bon mindset à chaque fois que je vais sur un job. Donc, du coup, j'essaye de vraiment... je suis easy, en fait. Easy
c'est
going.
Trop cool.
Easy going.
Cool. Petite question de casting director, parce que on en a parlé avec Cécile quand elle est venue. Toi, en règle générale, tu découvres les filles avant le job ou sur le job ?
En général, avant le job quand même. En général, avant le job, parce que pour moi, c'est quand même hyper important en fonction de ce qu'il y a à faire. Même si, par exemple, je t'ai dit tout à l'heure que c'était les cheveux qu'on faisait en ce moment, c'était relativement easy. Des fois, t'as quand même besoin d'un peu d'extension pour des tresses, pour des cheveux wavy, pour... quoi que ce soit, tu vois, donc il faut quand même les voir un petit peu pour être sûr que t'as ce qu'il faut. Donc en général, je les vois avant, ça m'arrive quand même de temps en temps qu'on me fasse la surprise. Et puis il faut t'adapter, tu
ouais,
vois, ça fait partie du job aussi.
Des fois qui m'envoie un DM en mode wesh gros, c'est qui les filles de demain ?
Ouais,
envoie-moi, tu connais.
Ouais, des fois il faut courir un petit peu derrière, mais en général, j'arrive quand même à avoir les infos avant et puis à pouvoir me préparer. Mais c'est vrai que ça peut être un peu frustrant quand tu la découvres le matin parce que des fois t'as une idée ou. Tu sais que t'avais ce qu'il fallait chez toi ou au bureau, et puis vu que t'as pas eu le temps de te préparer ou quoi, ça peut arriver. Après, en général, j'essaie d'être assez organisé, d'avoir plus ou moins tout ce qu'il me faut dans mon kit, comme ça, en fait, peu importe ce qui se passe, je peux répondre à la demande, tu vois, ou je peux juste exécuter mes idées, en fait, tout simplement. Donc, j'essaie quand même d'avoir un kit, ce qui pèse quand même pas mal de poids,
ouais,
parce que les deux
aussi.
Valises de 35 kilos, ça fait mal. Mais au moins, ça me permet de pas m'énerver quand il y a un casting director qui envoie pas les filles avant et puis que t'arrives et que en fait
ça c'est pas moi.
Non, c'est pas toi. En général, avec toi, on est plutôt carré. On a tout ce qu'il faut avant, donc ça c'est assez cool. Mais ça arrive des fois. Tu vois, je peux comprendre aussi. Des fois, il y a des deadlines qui sont tellement rapides et compliquées que t'as pas forcément le temps d'envoyer l'épaule à toute la team. Tu vois, donc c'est des choses qu'en fait que j'ai appris aussi. Tu vois, parce que en discutant avec plein de gens du milieu et puis plein d'amis et puis différents corps de métier, en fait, tu te rends compte que on est tous un
chacun
peu sous pression, on a tous nos deadlines, on a tous nos contraintes, et en fait, il faut juste essayer de laisser un peu de place à tout le monde, tu vois. Donc, si le casting director n'a pas envoyé des filles, bah écoute, c'est pas grave, je me charge un petit peu plus le matin, je prends un peu plus, et puis on arrive à répondre à la demande quand même, tu vois. C'est pas très grave, mais bon.
hyper hyper coopératif en tout cas.
J'essaye. Je pense qu'en fait, tout simplement, si on essaye de s'aider, ça va être plus facile pour tout le monde, tu vois, plutôt que de tirer la blanquette de son côté. T'as vu mon accent franglais, la blanquette, je sais pas si vous avez compris,
ouais,
ça veut dire the blankets. Ouais, j'essaie de vraiment être en coopération avec tout le monde, et je pense que juste si on veut que les choses avancent dans le bon sens, et puis qu'on ait une industrie beaucoup plus apaisée et beaucoup plus agréable pour tout le monde, il faut juste qu'on se file des coups de main entre nous, tu vois, et ça sert à rien, parce que tu vois, comme pareil, quand j'ai découvert aussi l'industrie au tout début, et puis qu'on me racontait un peu les ragots et les machins, et puis les blabla et les bruits de couloir, des fois, t'en avais des trucs, et t'es en mode genre, hey, les gars, sérieusement, tu vois, genre, des stories, en fait, c'est que des trucs d'ego, tu vois, où, bah, parce que je t'aime pas, je vais te mettre un gros croche-patte, et puis ça va te faire mal, mais en fait, ça va servir personne, parce que, ben, tu fais mal à quelqu'un, mais en fait, on travaille ensemble, donc, ça va ni t'aider lui, ni t'aider toi, donc je comprends pas trop l'intérêt, et moi j'essaie juste de faire en sorte que ce soit easy pour tout le monde, tu vois.
Tant qu'on est sur les gossips, là, c'est quoi le pire truc que t'as entendu sur set?
Ouh, le pire truc que j'ai entendu sur set? Le pire truc que je pense que c'était il y a quand même quelques temps maintenant, c'est il y a 3-4 ans, et c'est un photographe qui essayait un petit peu trop, j'ai même plus son nom, tu vois, je pourrais même pas aller jusqu'au bout du gossip, mais c'est un photographe qui essayait un petit peu trop qui était un peu trop tactile avec la fille, en fait, tout simplement. Ça, c'était même pas un gossip, je l'ai vécu en live, mais c'était quand même très très désagréable, je dois dire. C'était
malaise, quoi.
Ouais, c'était le gros malaise, mais c'était aussi entre guillemets la roulette russe de l'époque, où quand tu fais des collabs avec des photographes que tu connais pas, et ben des fois tu tombes sur des gens bien et des fois tu tombes sur des tarés, donc voilà, ça faisait partie de l'apprentissage, et puis de la découverte du milieu aussi, tu vois, où il y a des gens qui sont très équilibrés et très sains, et puis où il y a des gens qui sont juste des fois, tu vois, je dis pas tout le temps, mais qui sont des fois un petit peu à côté de la plaque, quoi, tu vois. Tout simplement.
Ouais, bien sûr.
On se parle d'équipe là. T'as fait ton trou, ta place un petit peu en solitaire. Aujourd'hui, t'as énormément de travail. J'imagine que tu t'entoures. Comment tu choisis tes assistants, les gens avec qui tu décides de collaborer?
En général, c'est des gens que je rencontre, que j'ai rencontrés en fait pendant mon parcours, tu vois, ou que j'ai rencontré un peu par hasard. Et qui sont coiffeurs comme moi et qui viennent de différents milieux et avec qui on y a un match en fait au niveau de personnalité, parce que je suis quand même quelqu'un d'un peu timide et où je suis vite dans des situations quand je travaille, parce que tu vois, travailler avec quelqu'un presque tous les jours sur des sets, pour moi il faut que je sois à l'aise, donc c'est souvent des gens avec qui j'ai un match au niveau des personnalités et qui sont, en fait, j'ai pas vraiment de... Quand je choisis mes assistants, je suis pas le genre de mec qui va demander d'avoir une expérience de ouf avant d'avoir commencé. Je m'en fous un peu si t'as assisté Guido ou pas avant moi.
Tu préfères former à ta patte, en fait, alors.
Je préfère former à ma patte, mais je préfère aussi donner l'opportunité à des gens qui l'ont pas forcément ou pour qui ça va peut-être être un peu plus difficile de rentrer dans ce milieu parce qu'ils ont pas forcément les connects. Parce qu'en fait, moi, je suis passé par là aussi, tu vois. Au début, quand j'ai commencé, ça, on m'a pas toujours filé des coups de main, donc j'essaye un petit peu.
C'est ta manière de renvoyer l'ascenseur.
Ouais,
quoi.
Un petit peu, tu vois, j'essaye en fait d'avoir juste une team qui me représente aussi, tu vois, avec des gens de tous les milieux, avec de tout type d'expériences différentes, qu'ils aient travaillé en salon ou pas. J'ai des assistants qui ont jamais travaillé en salon, j'ai des assistants qui ont travaillé 10 ans en salon, il y en a qui ont travaillé un an et qui ont fait que du salon afro ou qui ont fait que du barbershop ou voilà, c'est ce genre de choses là et ça fait, ils sont là pour apprendre et c'est un travail collaboratif, donc j'essaye vraiment aussi de donner la chance, en fait, de donner une opportunité, et donc l'expérience et tout ça, c'est pas dans mes premiers critères de choix. J'ai surtout besoin, en fait, qu'ils soient motivés et qu'ils soient cool, en fait, tout simplement, avec qui ça match, qui c'est easy, qu'il n'y ait pas de truc d'ego, qu'il y ait une bonne atmosphère, qu'on s'amuse bien et qu'on ait envie de faire des choses ensemble, tout simplement, parce qu'en fait, on passe beaucoup de temps ensemble. Ouais. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, je travaille beaucoup, donc des fois, je suis on set avec le même assistant pendant 5 jours d'affilée. On va passer 2 jours au bureau ensemble à préparer des perruques ou des extensions ou peu importe quoi. Et si t'es pas à l'aise ou si l'atmosphère elle est pas fluide, si les énergies elles sont pas alignées, moi ça marche pas, tu vois. Je peux pas avoir une petite tension quand je travaille avec quelqu'un. Sinon
faut
que ce soit smooth. Donc c'est surtout ça le critère principal en fait. Le critère de base, c'est pour moi c'était smooth, ça passe. Et puis t'es pas smooth, ben désolé, mais faudrait aller voir ailleurs, tu vois.
Ouais, c'est cool.
Et je donne toujours la chance, tu vois. Des fois j'ai des doutes et des fois bah les doutes ils se dispersent avec le temps, tu vois. C'est aussi juste, tu vois, quand tu te mets à la place d'un assistant, des fois t'es un petit peu impressionné parce que tu sais pas forcément où tu mets les pieds non plus. Tu connais pas la personne, pour eux aussi c'est un risque. Il y en a qui ont besoin de temps, qui sont timides comme moi aussi en fait, tu vois, et qui ont besoin d'un peu de temps pour s'épanouir et puis pour être plus à l'aise. Donc du coup je laisse quand même toujours au moins une ou deux fois, et puis si ça se passe une ou deux fois, même plutôt deux ou trois fois, pardon, parce qu'une ou deux fois c'est pas beaucoup en fait, plutôt deux ou trois fois, de voir un petit peu comment la personnalité elle évolue, et puis quand ça roule, ben let's go, et puis on fait des projets ensemble et c'est cool.
Hyper cool, c'est trop intéressant.
Justement, pour rebondir un petit peu sur tout ça, toi, dans ton job, qu'est-ce que t'aimes le plus? Qu'est-ce qui te fait le plus kiffer dans ton job au niveau auquel tu es aujourd'hui?
Dans mon job, qu'est-ce qui me fait le plus kiffer? Premièrement, je pense qu'en fait, c'est de rencontrer énormément de gens tout le temps, et des gens hyper inspirants, des gens qui viennent de plein d'endroits différents, parce qu'en fait, on travaille avec des teams, avec des gens qui ont grandi un peu partout dans le monde, ou en Europe, qui ont plein de cultures, plein de références différentes, et t'as vraiment la chance en fait moi, je le vois comme ça, j'ai la chance de rencontrer des gens aussi qui m'enrichissent et qui me font découvrir des choses que je connaissais pas, tu vois, et je trouve ça hyper cool. Après, pour en venir aux cheveux, ce que moi mon kiff pour si on parle un peu plus technique, c'est les perruques, j'adore ça.
Ouais.
C'est vraiment le truc où j'adore passer du temps sur mes perruques. Partir de rien et puis essayer de construire quelque chose qui me plaît avec différentes matières, avec différents shapes, avec tout ce que j'ai envie d'imaginer ou quoi, d'essayer plein de choses, parce qu'en fait ce qui est cool quand t'es coiffeur et que tu travailles sur perruque, c'est qu'en fait t'as pas d'être humain en dessous, et donc du coup tu t'en fous un peu si tu fais mal ou si tu mets des produits qui sont pas faits pour les cheveux. Donc du coup tu peux vraiment décupler les possibilités de création, tu vois. Je travaille beaucoup par exemple avec de la résine, avec des produits qui sont sur un être humain, c'est complètement interdit. Faut pas essayer de mettre de la résine dans les cheveux parce que ça va mal se passer, mais du coup sur perruque c'est ok, tu fais ce que tu veux et puis tu peux vraiment créer des résultats sans limite en fait, et ça c'est cool. Ça c'est un peu mon gros kiff, mais sinon c'est vraiment rencontrer les gens et puis m'enrichir en fait, parce que tu vois, que ce soit souvent en fait ce qui est cool, et ça c'est un peu les petits tips de l'industrie, c'est que la beauty room ou le hair and makeup, c'est un peu la zone où tout le monde se détend un peu.
Ouais,
c'est un peu
cette espèce de zone préféré.
C'est un peu cette espèce de zone de paix où
ça gossipe pas mal,
on va pas se mentir, ça gossipe pas mal, mais c'est toujours d'un œil bienveillant, enfin en tout cas avec moi c'est toujours avec un côté bienveillant. Et donc du coup c'est aussi l'endroit où tu découvres un peu plus les gens en fait, parce que quand t'as le temps, parce qu'on n'a pas toujours le temps, des fois quand t'as un quart d'heure pour faire des cheveux, t'as pas trop le temps de te raconter ta vie, mais quand on a un petit peu le temps et que en fait tu peux juste discuter avec les gens et puis ils se détendent un petit peu, ils s'ouvrent un peu à toi, ils te racontent un peu leur story, tu vois, et je trouve ça cool en fait, ça t'enrichit, parce que des fois on a des filles qui viennent des States ou qui viennent d'Afrique ou de partout dans le monde, tu vois, pareil avec les stylistes, avec les photographes, t'as accès à plein de gens qui vont t'ouvrir des portes en fait créatives, tu vois, et moi je trouve ça hyper enrichissant, tu vois, parce que comme je l'ai dit au début, je suis pas issu du milieu de la mode, et c'est ça qui m'excite aussi, c'est un métier que je continue encore de découvrir tous les jours, parce que j'ai pas un background hyper vieux en fait dans l'industrie de la mode et dans le milieu de la mode et dans les références et dans les magazines et tout ça, tu vois, il y a plein de choses que je découvre encore maintenant et pour moi c'est hyper excitant.
Génial. Bon, it's time to mettre les pieds dans le plat un petit peu là.
Ok.
Pendant longtemps, il y avait personne qui avait vraiment les skills pour coiffer les cheveux afro.
Ouais.
Au même titre qu'il y avait personne pour maquiller les peaux noires.
Ouais.
En vrai. C'est un switch qui est en train de s'opérer petit à petit, on entend encore des filles qui arrivent sur le set avec leur propre maquillage ou qui finissent par même se coiffer elles-mêmes parce que le staff qu'il y a sur le set, il est juste pas capable de faire un truc qui soit juste approprié, en fait. Il y a aussi un switch qui se passe dans l'industrie où on a de plus en plus justement de mannequins issus de la diversité qui sont castés pour les projets. Toi, est-ce que tu penses que ça t'a servi, cette dynamique-là, qui est en soi une place à se faire, qui est de l'espace, qui est une demande ?
Ouais, honnêtement, je pense que ça m'a servi. Je vais pas mentir et puis pas faire le mec genre « Non, ça m'a pas servi ». Je pense que ça m'a servi, tu vois, parce que en fait, il y a une réalité qui est là. C'est clairement, la plupart des coiffeurs parisiens ne savent pas faire de cheveux afro, tout simplement, en fait.
Ouais.
Et donc, ça m'a servi dans le sens où j'étais là, j'étais à Paris, je suis arrivé un peu au moment où ce switch a commencé à s'opérer. Et puis, j'avais les compétences, tu vois. Donc, on m'a testé une fois ou deux, on m'a laissé ma place, on m'a laissé ma chance. On a vu que ça se passait bien. On a vu que je savais aussi faire autre chose que du feu afro.
Ouais, donc, clairement, dire, on t'a pas mis une étiquette. De
clairement,
mec,
ça m'a servi, tu vois. Et moi, en fait, ça a été aussi un peu une de mes éthiques de travail jusqu'à maintenant. C'est que j'adore les cheveux afro. Ça fait partie de ma culture. Je suis moi-même black. Enfin, je peux pas le cacher. J'adore ça, j'adore faire les cheveux, j'adore tresser. Il y a tellement de choses que tu peux faire, mais j'ai jamais voulu me cantonner qu'à ça. J'ai toujours voulu garder ma double casquette, cheveux afro, cheveux européens, caucasiens, tout ce que tu veux. J'ai toujours voulu savoir tout faire, en fait. Depuis que j'ai commencé à taffer, en fait, j'ai toujours continué à faire de l'afro, à faire du cheveu européen, même quand je travaille que dans des salons européens ou quand j'ai travaillé que dans des barbershops ou que dans des salons afro. J'ai toujours continué à faire les deux à côté ou pas. Et ça a toujours été hyper important pour moi, en fait, parce que ça fait aussi partie de mon identité. Je suis métisse, ma mère est noire, mon père est blanc. Et pour moi, c'était important de garder les deux côtés de ma personnalité, en fait. Ça fait partie de moi et c'est tout, tu vois. Donc ça a toujours été... J'ai jamais voulu, en fait, qu'on m'identifie seulement comme le coiffeur pour les blacks. Ou pour les blancs d'ailleurs, mais j'ai vraiment toujours voulu avoir la double casquette et essayer d'en faire ma force, en fait, tout simplement parce que je pouvais faire les deux et donc du coup je pouvais répondre à presque toutes les demandes, je pense.
Justement, par rapport à ton parcours, on sait qu'en termes de formation, les écoles de coiffure, elles forment pas spécialement sur ce type de coiffure afro.
Pas
toi,
du tout, même.
Comment t'as
pas
appris
du tout. Moi, comment j'ai appris, en fait, YouTube, beaucoup YouTube, ça m'a énormément, en fait, YouTube m'a énormément aidé, parce qu'en fait, quand j'étais plus jeune, ma mère voulait pas, enfin, ça a jamais été son kiff que je devienne coiffeur, et puis c'était pas une révélation pour moi depuis que j'étais gosse, tu vois, donc... J'ai pas commencé à tresser quand j'avais 3 ans, tu vois. J'étais pas une de mes cousines qui a commencé à tresser ses sœurs ou ma mère qui a commencé à tresser ses sœurs quand elle avait 3 ans, tu vois. Moi, j'ai commencé beaucoup plus tard et j'avais demandé des petits tips à ma mère et tout, mais je voulais aussi un peu me débrouiller tout seul, tu vois. Et en fait, YouTube, ça m'a sauvé la life parce que t'as un million de tutoriels différents, t'as plein de. Tu peux quasiment tout apprendre, en fait, tout simplement. Quand t'es un petit peu motivé et que t'as le temps. Et en fait, c'est comme ça que je me suis lancé. Et puis après, la pratique, en fait, parce que le cheveu afro, c'est juste une question de pratique. Il faut pas avoir peur, il faut mettre les mains dedans et puis il faut y aller. Et puis tu pratiques, tu répètes. Et puis il y a un moment, en fait, où tes doigts deviennent beaucoup plus smooth et t'arrives à travailler la texture et la matière avec beaucoup plus de facilité. Ça prend du temps, tu vois. J'ai commencé, en fait, au début de ma formation, un petit peu tout seul, sur le côté, avec mon frère, avec mes petites cousines et tout, tu vois. Mais après, ça a été aussi beaucoup de pratiques sur le tas, des potes que j'ai rencontrés par-ci, par-là. À Londres aussi, beaucoup, tu vois, il y a une communauté black qui est beaucoup plus importante à Londres qu'en Lorraine, typiquement. Donc du coup, aussi à Londres, j'ai beaucoup expérimenté sur des potes, sur les gens que je rencontrais et tout, quoi, tu vois. Donc c'était cool.
Autre petite question, justement, par rapport à tout ça. Si tu pouvais changer quelque chose dans l'industrie par rapport à un peu à tout ça, qu'est-ce que tu changerais aujourd'hui?
Je pense que je changerais l'accessibilité. L'accessibilité, même si c'est un petit peu... je vais dire que c'est un petit peu facile de le dire parce que c'est un petit peu la tendance du moment où on essaye de rendre les choses plus inclusives et plus accessibles, mais je pense qu'il faut le faire vraiment. Et il faut vraiment essayer d'ouvrir les portes parce qu'il y a aussi tellement de gens créatifs et qui peuvent apporter une vision tout simplement différente et puis actuelle au monde d'aujourd'hui, tu vois, qu'il faut vraiment essayer d'ouvrir les portes et puis de rendre le milieu un peu moins opaque, je pense. Après, je sais pas, tu vois, j'ai pas la science infuse, mais moi je pense que j'essaierai de rendre le truc un peu plus accessible, tu vois, genre essayer, je sais pas vraiment comment, je t'avoue, j'ai pas vraiment ultra réfléchi à la question, mais par exemple pour ce qui me concerne moi, les coiffeurs, les maquilleurs, essayer de faire en sorte à ce que trouver les mails par exemple des agents pour pouvoir être booké sur des shows ou bosser, assister des coiffeurs qu'on admire en fait, parce que souvent quand t'es un jeune coiffeur, t'admires ce genre de personnes. Essayer de rendre ce moment-là un peu plus facile, tu vois, arrêter de cacher les mails et puis de mettre sur les sites internet des hello at telle agence, des adresses mails où personne ne répond, personne ne check quoi que ce soit, et du coup, ben, les pauvres gens qui...
Personne ne les lit même.
Ben, c'est ça, tu vois, donc du coup, ben, les coiffeurs comme moi, par exemple, tu vois, les jeunes qui ont une petite idée, mais qui n'ont pas un insider, quelqu'un qui va les aider à rentrer, que ce soit plus facile pour eux, tu vois, qu'ils aient aussi la chance, en fait. Même si maintenant, avec Instagram, je pense que ça s'est quand même déjà pas mal ouvert, il faudrait continuer que ce soit d'une manière plus institutionnelle aussi, je pense. Que ce soit moins les réseaux sociaux et les gens qui se débrouillent tout seuls, que ça soit une vraie approche de toute l'industrie. Je pense.
Ouais. On se parlait de formation où il n'y avait pas forcément beaucoup de matière ou beaucoup d'espace pour le cheveu afro. C'est le cas aussi en France, en tout cas, sur les salons qui sont accessibles à ces populations-là. C'est le cas aussi pour potentiellement des produits, des points de vente, etc. Est-ce que toi, tu penses qu'il y a de l'espace, enfin ça c'est une certitude, qu'il y a un espace pour créer des choses. Ah, est-ce que tu as des projets dans ce sens-là?
Je commence à y réfléchir. Je pense que je suis encore un petit peu jeune pour vraiment lancer tout seul ce genre de projet-là. Mais j'ai des projets un peu d'avenir où j'aimerais bien rendre l'éducation et l'accès aux connaissances sur les cheveux afro beaucoup plus simple pour beaucoup plus de monde. Essayer de... En fait, j'ai un petit rêve, en vrai, dans ma tête, ce serait peut-être d'ici quelques années monter une école, tu vois. Ça, c'est un petit rêve que j'ai dans le coin de la tête. Je me sens pas encore prêt parce que pour moi, pour monter une école et pour te prétendre professeur ou... pour te prétendre professeur, en fait, il faut pour moi avoir énormément d'expérience, énormément de recul sur ta carrière et sur les choses que tu vas apprendre et comment tu vas les apprendre. Donc ça, c'est un projet que je me garde un peu pour le futur. Mais j'aimerais bien tout doucement peut-être lancer des petites initiatives ou essayer de...
Des vidéos YouTube, genre?
Ouais, c'est des trucs que je peux pas en parler encore totalement, librement maintenant. Okay. Mais c'est des projets qui sont un peu dans les tuyaux et dont je commence un peu à réfléchir avec différents partenaires et de voir un peu qu'est-ce qui est possible de faire dans l'avenir, voir si c'est voir comment on va le faire mais c'est des choses que j'ai en tête. Ouais, j'aimerais bien juste rendre l'accès à l'éducation sur les cheveux afro beaucoup plus facile et faire en sorte que les générations du futur en tout cas soient beaucoup plus à l'aise avec ce genre de sujet, en fait, parce que si on veut que la question elle évolue, il faut que tous les gens qui soient en fait acteurs de ce milieu-là ou responsables de ce milieu-là s'y mettent, en fait. C'est pas seulement aux jeunes générations ou à la communauté black, c'est pour moi à tout le monde de s'y mettre, parce qu'il faut que l'espace soit vraiment le plus ouvert possible et que peu importe où c'est comme ça que je vois la chose, c'est peut-être d'une manière hyper utopique, mais moi je vois le truc comme ça. J'ai envie que demain, peu importe où la cliente black rentre dans n'importe quel salon, j'ai envie qu'elle puisse s'asseoir et qu'elle puisse se dire on va s'occuper de mes cheveux, tu vois.
Ouais, c'est un vrai sujet, ça, on en discutait tout à l'heure.
C'est un vrai sujet et je pense que c'est possible, mais il faut vraiment mettre les bouchées doubles, en fait. Il faut vraiment prendre des décisions, passer à l'action. Il y a plein de choses,
surtout
tu vois.
Surtout en France, on est vraiment à la traîne,
tu vois. Enfin, par exemple, on en parlait tout à l'heure avec Sonia, aux États-Unis, tu vas dans les supermarchés, tu vas chez Walmart, tu peux trouver des produits pour les cheveux texturés dans tous les supermarchés aux États-Unis. Pourquoi on n'est pas encore là en France? Tu vois, quand tu vas chez Monoprix ou chez Carrefour, tu vois que du L'Oréal pour je sais pas, de la crème ou de l'huile pour les cheveux
au mieux cheveux frisés au
voilà,
mieux
frisotant quoi, tu vois, mais ouais. Pour un vrai cheveu un vrai cheveu coarse, tu verras jamais un leave-in conditioner ou un gel, tu vois, par exemple, jamais de la vie, c'est ouais. Et c'est pas adapté, et pourquoi on en est encore là, tu vois, alors qu'en vrai il y a une vraie demande, il y a une vraie demande, parce que je connais énormément de gens qui me disent qu'ils aimeraient bien pouvoir juste aller au supermarché et puis acheter leurs produits pour les cheveux ou dans n'importe quel salon de coiffure, bah, tu vois, ouais. Rentrer et puis pouvoir trouver des crèmes pour leurs cheveux, tu vois, mais la demande elle est pas encore là, et ça vient des marques, en fait, tout simplement, qui prennent pas encore, parce que je pense en fait qu'ils n'ont pas les connaissances du marché et qu'ils n'ont pas les bonnes personnes en place pour lancer ce genre d'action. Mais je pense qu'il y a clairement une place à se faire, tu vois. Et on le voit tous les jours dans les rues de Paris, il y a une demande qui est énorme.
Il y a un boulevard.
Et en vrai, la seule offre, elle se trouve boulevard de Strasbourg.
Exactement.
À Paris, tu vois. Donc, c'est la seule offre que tu as. Ou dans quelques petits quartiers, tu as des petits shops afro, tu vois. Mais elle est localisée dans les petits shops afro de Paris, tu vois, et c'est pas normal.
Ouais, mais t'es relayé à des réseaux un peu secondaires, quoi.
Ouais, c'est ça, et il serait temps que ce soit accessible pour tout le monde, partout, comme pour les produits pour les cheveux caucasiens, par exemple, tu vois. C'est un petit sujet, on parle de cheveux, tu vois, c'est pas...
Ouais, mais en vrai, je pense mais que c'est dans le quotidien, on mérite une expérience à la hauteur de n'importe
exactement,
qui d'autre.
Exactement, tu vois, ça fait quand même partie des petits plaisirs que t'as envie d'avoir... quand tu vis à Paris ou peu importe ailleurs en France, tu vois, de pouvoir, quand t'as envie de t'occuper, de prendre ton petit beauty moment, ouais. Et ben de pouvoir sortir facilement, trouver un salon de coiffure ou un endroit où tu peux acheter tes produits où l'expérience elle est agréable, parce que en fait tout le monde mérite une expérience agréable, et c'est je pense que c'est important de rendre ça beaucoup plus accessible.
100%. J'aimerais bien qu'on finisse sur une petite question société. C'est un sujet qui fait l'actu assez régulièrement sur les réseaux sociaux, etc. Et c'est celui de l'appropriation culturelle. On en ouais. parle souvent quand il s'agit de cheveux afro. Ouais. Par exemple, complètement au hasard, quand tu vois une Khloé Kardashian qui rend les cornrows super fashion, comme si c'était un nouveau truc, c'est quoi ton regard sur la question ?
Mon regard sur la question, il est... j'ai tendance à être un peu ouvert sur la question, dans ouais. le sens où ça me dérange pas qu'une Khloé Kardashian porte des cornrows à partir du moment où où on n'approprie pas cette coiffure là à Khloé Kardashian. Il faut qu'on fasse un travail de mémoire où on sait d'où vient cette coiffure, on sait d'où vient cette référence. Moi je trouve ça hyper cool, par exemple, tu vois, honnêtement, hein. Je suis pas du tout du genre à dire non, les blacks doivent se coiffer comme des blacks et les blancs doivent se coiffer comme des blancs. C'est pas du tout mon approche. Moi, je suis pour que tout le monde puisse porter tout type de coiffure. Après, forcément, t'as une limite, c'est ton cheveu. Si tu vas essayer de faire des bantu knots avec un cheveu raid, ça va pas être la même chose. Donc, tu vas t'en rendre compte très vite que
ça va
pas
coincer.
Tu vas te rendre compte très vite que c'est pas pour toi, tu vois. Mais des trucs beaucoup plus faciles à porter comme des cornrows, moi, ça me fait. En vrai, c'est pas ça me fait kiffer, mais. Ça me fait plaisir aussi de voir qu'on s'ouvre et de voir qu'il y a une évolution et qu'on n'est plus cantonné aux coiffures de blanc pour les blancs et aux coiffures de noir pour les noirs, tu vois.
Ouais, mais tu vois encore beaucoup.
Il faut qu'on ait un travail de mémoire et il faut que...
Ouais, que les gens ne se disent pas que ça vient de
voilà,
Khloé Kardashian.
Voilà,
c'est
voilà,
ça,
voilà.
Le problème, il est là, en fait.
Mais ça, je pense que c'est une question d'éducation aussi, tu vois. C'est une question de culture. Ça part de loin, en fait, parce que, par exemple... Si demain Naomi Campbell va porter les finger waves, tu vois, parce qu'il y a une coiffure, par exemple, qui est une coiffure européenne qui est très ancrée de la culture des années 20, on va jamais dire que c'est Naomi Campbell qui a lancé le look finger wave. On sait d'où vient la référence, tu vois. Les gens savent associer finger wave à période rétro, années 20, les années folles, voilà, tu vois. Mais pourquoi est-ce que quand on voit une Khloé Kardashian avec des cornrows, on n'arrive pas à associer cette référence visuelle-là avec l'endroit d'où ça vient ? C'est parce qu'en fait, clairement, il y a dans l'éducation, on ne voit pas ce genre d'image, en fait. On n'a pas accès à des photos d'histoire ou à des bouquins avec des femmes qui portent des tresses, des femmes qui portent des bantu knots, des femmes qui portent des locks, des femmes qui portent tout type de coiffure afro, tu vois. On n'a pas accès à ce genre d'informations là, donc c'est aussi déjà pour ça que quand t'as une blanche qui porte une coiffure de noir, pour parler un peu plus cash, bah, on sait pas d'où ça vient.
Mm.
Tout simplement. Et c'est un gros travail de fond, parce que là, on parle carrément de d'histoire et puis d'éducation autre que l'éducation de la coiffure, tu vois. Mais moi, en tout cas, pour revenir à la question de base, moi, ça me dérange pas. Il faut juste faire le bon travail de mémoire, tu vois. Et je trouve ça cool qu'on puisse porter tout type de coiffure et qu'on puisse se sentir hyper à l'aise. Moi, j'adore quand je vois des fois des petites meufs se balader à répu avec des filles, avec les baby hair. Je trouve ça hyper cute, tu vois. Ouais. C'est une pure, entre guillemets, appropriation culturelle, mais je trouve ça cool parce qu'elles sont hyper à l'aise avec ça. Et puis c'est comme ça qu'elles s'expriment aussi, tu vois. C'est aussi l'amour d'une culture, l'amour d'une esthétique différente. Et je trouve ça cool qu'on mixe un petit peu les cultures et puis les looks et les idées et tout ça, tu vois. C'est, moi, je suis pas du tout pour sectionner, pour cantonner les gens dans leur case.
Hyper intéressant. Franchement, merci pour ton témoignage, pour ton temps et tout. C'est une belle leçon d'humilité et hyper cool comme mood.
De rien. Moi, ça m'a fait hyper plaisir. J'étais hyper honoré aussi.
Attends, on n'a pas fini. Hein.
Ah, vous n'avez pas fini ?
Il reste... Ah, okay. Bah, attends.
Non, mais t'inquiète, j'ai tout mon temps.
T'es auditeur du podcast.
J'ai tout mon temps.
Donc, tu sais qu'on aime bien finir nos podcasts avec ces petites questions guillemets.
Yes.
Auxquelles il faut répondre un petit peu du tac au tac. Je vais donner la première et après ça, on va s'enchaîner avec So. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné ?
Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, take it easy, je pense. Et c'est Duffy qui m'a dit ça une fois. Et sur le coup, j'ai pas compris pourquoi, mais j'ai compris pourquoi après, en fait. C'est parce que, et c'est aussi ce qui m'a, tu vois, c'est un des bons souvenirs que j'ai eu dans sa team. C'est que c'était quand même quelqu'un de, malgré sa team, qui est quand même très compétitif, très humain. Et il m'a dit take it easy, pas parce que arrête de taffer, mais plus genre apprends à être à l'aise et à juste être smooth avec toi-même et les choses vont avancer toutes seules, en fait. Donc take it easy, prenez votre temps et quand t'as quelque chose dans la tête, si t'as pas de limite mentale, tu peux faire ce que tu veux.
Génial. Take it easy. La tendance R que t'as jamais compris. Est-ce qu'il y en a une ? Parce que t'as l'air quand même super open.
Je suis hyper open, mais la tendance R que j'ai jamais compris, et tout le monde la connaît, je pense, c'est le man bun, ou cette espèce de petit halponi pour les mecs. En fait, surtout, c'est un des rares looks cheveux où, pour moi, c'est un total no-go. C'est le combo, les côtés rasés, le man bun et la petite barbe de hipster de 2-3 semaines ou 2-3 mois, ça, c'est, moi, c'est genre, c'est le no-go, tu vois. Et le petit man bun vers l'arrière, non, pour moi, ça, c'est vraiment un des seuls trucs qui peut me faire vomir, j'avoue. C'est vraiment, là, c'est no-go, tu vois. C'est, ouais, rase tout ou garde les cheveux longs, mais l'entre-deux, c'est trop chelou, tu vois. C'est genre, non.
Ok.
Genre, non, ça, je dis non.
Ok. Est-ce que t'as un talent caché ?
La cuisine.
On attend les tupperwares au bureau, là.
On attend les tupperwares. Je me surprends un jour, mais en vrai, la cuisine, en fait, j'adore cuisiner. C'est un peu mon petit talent caché parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui a l'opportunité de venir chez moi pour goûter à mes petits plats, mais je suis pas trop mal en vrai. Je me débrouille pas trop mal. Attends. Je suis pas au niveau d'un grand chef, mais j'ai quelques skills en cuisine, des petits plats de chez moi, des petits plats de par-ci par-là où ça vaut le détour.
Nice. On a une cuisine, hein, sinon au bureau.
Je sais. Va falloir qu'on l'expérimente.
Est-ce que t'as non, pardon, ça c'est déjà fait. C'est quoi ton guilty pleasure?
J'en ai beaucoup. Mais si on veut être... en fait, je fais aussi ce podcast pour être totalement open et libre. Et mon petit guilty pleasure, je veux dire, c'est la weed.
Wow.
Totalement. Ouais, c'est la weed, j'avoue. C'est mon petit guilty pleasure. Et en fait, je le dis aussi parce que je pense juste qu'à un moment... Il faut plus que ce soit un guilty pleasure, il faut juste que ce soit un pleasure, en fait. Il faut juste que ce soit totalement open pour tout le monde. Et je le dis aussi pour ça, parce qu'il ne faut pas avoir peur d'en parler. C'est bon, on ne fait rien de mal, on fume un joint. Et puis, je fais ça le soir tranquille chez moi, quand j'ai fini ma journée. Et c'est mon petit guilty pleasure.
Ouais, tu fais de mal à personne.
Ok. L'emoji que tu utilises le plus ?
L'emoji que j'utilise le plus... Je dirais... Ça, c'est compliqué. tu sais, le petit mec qui est en mode genre. Genre, je sais pas. Celui-là, je l'utilise pas mal. Celui-là, je l'utilise pas mal.
Ok.
Je l'aime bien celui-là. Je l'aime bien celui-là.
On sait pas. Et le dernier compte Instagram que t'as suivi?
Le dernier compte Instagram que j'ai suivi. Le dernier compte Instagram que j'ai suivi. Le dernier compte Instagram que j'ai suivi, je sais même plus, tu vois. Je dirais.
Qui t'a marqué, quoi.
Qui met. Alors, ouais, on va peut-être faire plus comme ça parce que j'en ai un que j'adore et que je pense que beaucoup de gens. Enfin, en tout cas, les gens qui aiment les cheveux et les gens qui aiment la culture capillaire devraient aller jeter un œil. Et je vais même aller checker mon phone pour être sûr de vous le donner correctement et dans le, avec la bonne orthographe. En fait, il s'appelle In Hair Intense. Et en fait, c'est un compte qui est assez cool. Parce qu'en fait, il partage un contenu incroyable sur les cheveux en général dans le monde entier. En fait, c'est un mec qui est d'origine. Il l'avait dit il y a pas longtemps parce qu'il avait fait un live que j'avais regardé un petit peu. Et si je dis pas de bêtises, il est du Curaçao. Et en fait, juste il partage tout ce qu'il trouve. Sur l'histoire du cheveu, donc ça va être des fois des statues, des photos des années passées, mais enfin c'est hyper beau, c'est vraiment, il a un contenu incroyable, il y a beaucoup de photos d'Afrique, d'Asie, d'Inde, de pays magnifiques où on n'a pas énormément accès en vrai en Europe, à part si on fait vraiment des recherches assez profondes, et là il a vraiment tout ça à portée de main, et c'est assez incroyable en vrai parce que je pense que c'est des choses que beaucoup de gens ont besoin de voir, et en tout cas dans les coiffeurs, pour les coiffeurs c'est hyper important je pense, et il est vraiment magnifique, donc je vais les appeler même pour que tout le monde soit ok, donc c'est in.hair.intense, c'est I-T-A-N-C-E, et il vaut vraiment le détour, donc allez jeter un œil.
J'en profite pour placer une petite minute d'autopromo, si vous voulez suivre les actus de Cast, rejoignez-nous sur Instagram. Et vous avez toutes les actus, les petits portraits des gens qu'on reçoit, etc.
Il faut aller vraiment aller rejoindre sur Instagram parce que c'est vraiment cool de pouvoir entendre plein de gens créatifs de plein de milieux différents s'exprimer sur leur parcours. On n'a pas souvent accès à ce genre d'informations-là et je pense que c'est cool d'avoir ce genre de d'informations en fait. C'est ce genre de comment tu dis déjà, putain, j'ai vraiment je perds mes mots aujourd'hui,
ouais,
c'est
ça
un
fait
peu
1h17 là, ça commence à être...
je dis c'est important d'avoir ce genre de d'archives, c'est important d'avoir ce genre d'archives parce que pour les générations futures, je pense que, en tout cas j'espère qu'ils ils les écouteront même dans l'année prochaine et qu'ils se diront c'est vraiment cool et c'est cool de pouvoir entendre tous ces petits secrets en fait qu'on n'entend pas souvent sur des gens qu'on aime bien et qui font les mêmes choses que nous en fait, tout simplement.
Bah, en fait, c'est vraiment pour ça qu'on a fait le podcast avec Sonia. C'est justement pour des gens qui sont en province, qui sont qui ont
ouais,
pas accès,
bah ouais.
Justement.
Moi, j'aurais kiffé, tu vois, j'aurais kiffé il y a 10 ans avoir ce genre de d'outils, tu vois, ce genre d'informations à portée de main. C'est ça qui est trop bien aussi avec tout ce qu'on peut faire aujourd'hui avec Instagram et les technologies et tout, tu vois, c'est que on peut quand même, on a la chance de pouvoir rendre. Accessible, des infos hyper cool à plein de monde et il faut juste que générer un petit peu de bruit autour de ça et puis
donc voilà, partagez ceux qui
exactement,
écoutent, partagez, envoyez à vos amis,
montrez à vos amis parce qu'en vrai, pour de vrai, ça peut vraiment lancer des carrières en fait, je pense. C'est ça qui est cool, c'est que tu vois, il y a des gens qui viennent d'endroits où ils ont pas accès à beaucoup d'informations parce que t'es pas à Paris et t'es pas dans des grandes villes et t'as, moi c'est des trucs que j'ai aussi réalisé tard, tu vois, mais t'as pas accès à beaucoup de choses et tu vois des fois par pur hasard tu vas tomber sur un podcast sur un milieu que t'aimes bien mais que tu connais pas et ça va peut-être te motiver en fait à prendre ton billet de train, bouger de chez toi,
ouais.
Sortir de ta zone de confort et lancer une carrière que t'aurais pensé inaccessible, tu vois. Donc c'est important d'avoir ce genre de choses là pour moi et c'est aussi pour ça que je l'ai fait, et même si ça m'a fait très plaisir de pouvoir aussi parler un peu de moi et puis parler un peu de ma petite vie perso, tu vois, je le fais aussi parce que ben, s'il y a des gens comme moi qui sont dans des régions un peu paumées de la France ou ailleurs, tu vois, et qui savent pas
ou
trop quoi faire.
Ça dit oui au lieu de oui.
Il veut pas nous laisser tranquille.
Hein. C'est toujours un oui. Mais tu vois, c'est, voilà, si tu peux, si ça peut, sans aucune... tu vois, sans aucune... j'arrête pas de perdre mes mots, là.
Prétention.
Sans aucune prétention, exactement, merci Sonia. Sans aucune prétention, tu vois, si le fait de faire un podcast, ça peut motiver des coiffeurs qui sont pas perdus, mais qui sont dans des régions un petit peu paumées où il n'y a pas forcément beaucoup d'activités et qui sentent qu'ils ont une âme créative et qui sentent qu'ils ont quelque chose à exprimer. Bah, si ça peut les motiver à venir à Paris, moi je suis hyper content et c'est tout ce que je demande en fait. Donc du coup, voilà, je trouve que c'est hyper cool et continuez comme ça.
Amen. Merci beaucoup, Yann, merci.
Merci à vous, les gars, c'était cool.